Allô? Épisode sur la masturbation féminine. La masturbation féminine est une présentation de Polysleep. Yeah! Merci Polysleep de commanditer la masturbation féminine. On te remercie. Sans Polysleep, il n'y a pas de masturbation féminine. Il n'y avait pas de masturbation féminine. Polysleep est arrivé. Puis là, pow! La masturbation féminine est arrivée. Polysleep est une entreprise de matelas québécoise, canadienne, montréalaise. Ils font des super bons matelas. Je possède un matelas Polysleep que j'ai payé moi-même. J'ai payé ça moi-même. Je ne suis pas rendu un influenceur. Je paye encore mes affaires pour avoir une molécule d'intégrité. Et Polysleep, ce qui est génial, c'est si tu n'aimes pas le matelas, tu as 100 nuits d'essai. Tu as 100 nuits pour voir si Polysleep est fait pour toi. Si t'es pas content, Polysleep revient prendre le matelas et t'es remboursé à 100%. T'as envie d'essayer Polysleep, utilise le code promo LEVAC 25. Pourquoi je crie? Parce que j'ai des problèmes émotionnels et parce que LEVAC est en majuscule. L-E-V-A-C 25 en majuscule. Let's go, Polysleep. La masturbation féminine. Deux femmes, Roxane Gaudette-Loiseau et Mélanie Guénette-Robert, sont venues me parler de leur livre sur la masturbation féminine. Tout sur la masturbation féminine. C'est un livre vraiment, vraiment agréable. C'est un livre le fun. Il parle de masturbation. Il y a des études là-dedans. Il y a des intellectuels qui sont cités. C'est une actrice et une sexologue. C'est pas juste deux madames qui ont fait « Hey, on va parler de comment on vient. » Non. S'il y a une démarche, c'est sérieux. Let's go. Et on s'en fout de ce que j'ai à dire. On veut entendre parler de masturbation féminine par deux femmes, pas un gars avec un gigantesque nez. Alors, je me tais et je laisse toute la place à deux femmes et on va parler de masturbation féminine. Gros show. Bon podcast. Oh, ouais. Allô!
Hello!
Très heureux de cet épisode. On va commencer par à qui je m'adresse. Qui êtes-vous? Je vais commencer par toi, Mélanie.
Oui, moi, je suis sexologue.
Let's go!
Je travaille au CAVAC, au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Je suis, dans le fond, je travaille principalement avec les personnes survivantes de violences à caractère sexuel. Principalement, donc, avec des femmes. J'ai des personnes de tout genre, mais principalement avec des femmes. Puis, j'ai travaillé avant pendant plusieurs années, puis Roxane pourra en parler, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais j'ai travaillé pendant près de 10 ans chez Anorexie Boulimie Québec aussi avant.
C'est quoi ça?
Oui.
Vas-y, Mel, vas-y.
Bien, Anorexie Boulimie Québec, c'est un organisme qui est en aide aux personnes qui sont prises avec un trouble alimentaire. Puis là, le nom est tricky, ça s'appelle Anorexie Boulimie Québec, mais c'est pour tout type de trouble alimentaire ou pour toute personne qui a une relation qui est plus problématique, plus complexe avec la nourriture et avec son corps.
Est-ce que c'est un lieu physique? Qu'est-ce que c'est?
Bien, il y a différents services, il y a des groupes de soutien, il y a le lieu civique et physique n'est pas très intéressant, là, c'est des bureaux, là, mais il y a des groupes de soutien qui ont lieu dans différents locaux, il y a une ligne d'écoute, il y a des services de chat, de texto pour les jeunes adultes. Fait que c'est vraiment du soutien direct, puis beaucoup de prévention, c'était plus mon volet avec Rox, beaucoup de prévention, d'éducation, donc des ateliers en milieu scolaire, beaucoup de représentations dans les médias.
OK, ça me fascine, on va y revenir. Si quelqu'un a... se pose des questions ou sent qu'il y a des problèmes avec la nourriture, qu'est-ce qu'elle fait pour rentrer en contact avec l'organisme?
Elle peut appeler sur la ligne d'écoute. Puis après ça, soit elle peut en parler directement pendant qu'elle est sur la ligne d'écoute, mais elle peut aussi s'informer par rapport au groupe de soutien. Il n'y a pas de service en individuel un à un chez ANEB, mais il y a des sons plus dans les groupes. Mais sinon, ils ont des références. Si la personne, par exemple, elle aimerait mieux traiter du sujet avec un intervenant ou une intervenante, un thérapeute ou une thérapeute en personne, bien, à ce moment-là, ils ont des références qui sont spécialisées aussi.
Parfait. Roxane?
Allô. Roxane Godette-Loiseau. Je suis actrice de profession. Allô. J'ai écrit avec Mel le livre dont on va parler aujourd'hui. J'ai deux beaux tannants. Je suis une maman. Écoute, juste ça, c'est tout un exploit. Pour moi, en tout cas. Oui, c'est ça. Moi et Mel, on s'est connus chez Aneb, où moi, je donnais des conférences parce que je souffre de troubles alimentaires. Donc, ce que je faisais, dans le fond, c'est vraiment donner des conférences aux jeunes, surtout particulièrement, là, justement pour faire de la prévention, puis de l'éducation, parfois à Sainte-Justine, tout ça. Puis c'est là qu'on s'est connus, puis qu'on a vécu un coup de foudre.
Wow!
Ouais.
Là, ça m'intéresse. Vous avez écrit un livre sur la masturbation féminine!
Oui!
OK, je suis content. Wow! Oui. Première question extrêmement agressive, mais faut commencer. Pourquoi?
Qu'est-ce qui vous intéresse? Facile. Pourquoi? Moi, dans le fond, ça fait vraiment longtemps que je pense à...
La masturbation, on est deux.
Ben, écoute, la masturbation, oui. Ah oui, bon, voilà. Mais en fait, à 14 ans, OK, tout le monde parle de l'orgasme, ça a donc bien l'air fun. Je veux savoir c'est quoi. Allô? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le sais pas tant. Pourtant, je viens d'une famille où on parle de sexualité. Ma mère, ma grand-mère, tout le monde est super ouvert, mais étrangement, masturbation, silence radio... Comme si c'était pas une pratique sexuelle en soi ou une relation sexuelle. Il y a eu un malaise, en tout cas. Fait qu'écoute, je me rends compte que j'ai très peu de pistes et d'informations pour me guider dans l'exploration de mon corps. Corps que je ne connais pas bien à l'époque parce que, honnêtement, là, au secondaire, moi, je pense que j'ai eu un pseudo-cours sur la sexualité. Puis on voyait une petite madame mettre une capote, une banane, en gros.
C'est curieux parce qu'on a le même âge, 3 ans. T'as 33 ans, 32
ouais,
ans?
Ouais.
Moi, j'ai 32, 33 quand l'épisode va être diffusé. Excuse.
Ben non.
Ça paraît... Mais tout ça pour dire, je trouve ça curieux parce que moi, mon école, on a dans le cadre de cours de biologie, on en parlait. Je trouve ça malheureux que t'as pas eu...
Pourtant, écoute, je suis une nerd, là. J'étais en PEI, Programme d'éducation internationale, puis on avait comme de la bio enrichie. Mm-hmm. Mais, tu sais, oui, on a touché aux aspects techniques, même comme moi, la première fois que j'ai vu un clitoris entier, là, l'organe complet, là, je devais avoir... Ça doit faire 10 ans, là. Fait que on n'avait pas vu... Je suis étonnée. T'avais vu vraiment un clitoris, là?
Ouais.
Au complet?
Oui.
Pas juste le gland du clitoris. Ensemble.
Ben, on s'est fait dire qu'il y avait un clitoris, puis que ça continuait, puis que ça ressemblait beaucoup au pénis, puis que ça ressemblait beaucoup au gland du pénis, puis qu'au début, quand un fœtus
oui, il y a un moment où
ça se sépare. Et,
exact.
Oui,
ils vous ont parlé du tubercule, je ne sais plus c'est quoi le nom.
Ouais.
Mais moi aussi, comme Roxane, c'était juste dans mes cours de bio, puis c'était principalement dans un aspect reproduction.
Ouais.
Dans l'objectif soit de se protéger de contraception ou d'avoir des bébés.
Ouais, il n'y avait pas d'histoire de plaisir.
Nous, c'était vraiment ça, c'est une question. Nous, c'était vraiment dans l'aspect plaisir, aussi dans l'aspect des relations entre les hommes et les femmes.
Mais t'es allé où?
Je suis allé à une école qui s'appelait Mont-Saint-Louis. Notre prof était obsédé par... Quand on a parlé de sexualité, il était vraiment obsédé pour nous expliquer. C'est important.
Mais bravo! C'est bien! Bravo, tu sais, particulièrement pour les jeunes filles. En tout cas, bref, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là. J'avais pas d'outils, tu sais, très clairs. Fait que je suis vraiment partie à tâtons.
C'est un des trucs que mon prof m'avait dit qui m'avait marqué. C'était, messieurs, prenant en considération que vous pénétrez des femmes et tout ce que ça doit prendre comme être pénétré. Pensez à ça, à quel point être pénétré et pénétrer, c'est une position vraiment, vraiment, vraiment différente et que ça a un impact sur comment vous voyez la vie, comment vous voyez vos actions. Il y a une raison aussi, ça explique aussi pourquoi. Si vous avez des pénis qui est à l'extérieur, fait que peut-être que ça explique pourquoi il y en a certains d'entre vous qui sont beaucoup plus extravertis. Tandis que ça explique pourquoi il y a plus de jeunes filles dans votre classe qui sont plus introverties, c'est dans leurs organes génitaux. C'est pas universel, mais pour des jeunes de 14 ans, c'est bien se faire dire attention aux jeunes filles. Ouais.
Je comprends la vision, puis je comprends le fait que c'était comme une perspective qui voulait vraiment dans la bienveillance envers le sexe féminin. Par contre, ce qui me choque de cette vision-là, moi, c'est que dans cette perception-là, la femme, puis c'est toujours cette position-là à laquelle on nous relègue, c'est que c'est la femme qui est prise, qui est possédée et qui est complètement passive. Alors que moi, tu vois, si on a une partie de jambe en l'air, on a découvert qu'on pouvait utiliser le verbe « circluer ». La circlusion, donc je te circule. Donc, alors là, c'est pas juste le fait que toi, tu me pénètres, c'est aussi que moi, je te circule, que moi, je t'enrobe. Ouais, que je t'enrobe, tout ça.
Puis, c'est intéressant, ça.
Puis moi, j'aime le fait que je sois aussi dans l'action, dans le verbe, que mon partenaire masculin, tu comprends? Ce qui me dérange un peu, cette vision-là, c'est que je suis pas non plus d'accord avec le fait d'être plus introvertie parce que tes organes sont à l'intérieur, ça me choque un peu, je suis pas full introvertie, ouais. Même si la plus grande majorité de mon clitoris est à l'intérieur. Mais je comprends le
en gros, ce qu'il voulait dire.
Parce que oui, je comprends qu'il y a quelque chose de plus invasif de recevoir, oui. D'accueillir en soi.
C'était pas universel comme truc.
Il y a aussi, tu sais, il y avait une belle intention, comme vous l'avez souligné, c'était bienveillant. Là, c'est encore relation homme-femme, mais il y a peut-être des gens dans la classe qui aimaient plus les femmes, des femmes qui aimaient des femmes, ben, des jeunes ou des garçons qui aimaient des garçons.
Tout le on comprend.
Oui. Mais quand même, il y avait une bienveillance derrière cette intervention-là.
Mais bref, tu sais, moi, je savais pas trop, fait que je suis allée vraiment essai-erreur jusqu'à atteindre mes objectifs, parce que je suis une jeune femme déterminée, et je l'étais à l'époque. Mais je me suis juste dit, aïe, aïe, c'est donc bien, il y a donc bien un gros manque dans notre société. Comment ça se fait qu'il n'y a personne pour m'aiguiller? Parce que clairement, c'est un pénis, justement, seulement par le fait que c'est externe, c'est beaucoup plus facile à stimuler qu'un clitoris, encore plus quand tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je trouvais que niveau éducation, la société l'avait échappé, comme sur plein d'autres points. Puis évidemment, quand ça concerne les femmes puis le plaisir des femmes, je pense que, historiquement, la société a tendance à bien volontairement vouloir l'échapper de ce côté-là. Fait que, première frustration, puis moi, dans la vie, j'avais fermement l'intention de jouir autant que toi, si c'est pas plus, en ayant une relation sexuelle avec toi. Fait que, c'était important pour moi de savoir c'est quoi. Ouais, même sans toi, tu sais, fait que. Puis ensuite de ça, ben j'ai eu ma fille, ma petite doudoune, qui a 5 ans aujourd'hui, puis j'ai fait comme, hey, honnêtement, je me rends compte que, tu sais, oui, on commence, OK, à parler du clitoris et tout ça, mais un outil éducatif accessible, quand même vraiment vulgarisé et tout ça, il n'y en a pas vraiment. Il faudrait peut-être remédier à ça parce que c'est important pour moi que ma petite soit confortable avec son corps, le connaisse, l'explore, je veux l'encourager à ça. Et toutes les autres enfants, jeunes filles, femmes qu'il y a, mais... Fait que là, ça s'est vraiment fait en deux temps, puis j'ai fait comme, ouais, OK, là, j'ai du temps, là, let's do this. L'affaire, c'est que j'avais pas les connaissances scientifiques pour backer mon expérience, mettons. Puis c'est là que j'ai pensé à Mel, puis que je l'ai introduit, dans le fond, au projet. Puis, tu sais, on avait déjà une super belle relation de confiance. Puis moi, j'avais besoin que cet ouvrage-là soit hyper crédible, niveau scientifique.
Je comprends. Là, il y a des photos, il y a des dessins, il y a des thèmes scientifiques. C'est très bien documenté.
Oui,
c'est pas deux femmes qui parlent à quel point c'est
non,
le fun.
Non, c'est pas ça.
C'est vraiment pas ça. Oui, puis malheureusement, tu sais, les gens qui comprennent pas ou qui entendent juste parler comme ça dans les heures de notre projet.
C'est pas des poèmes sur jouir, là. C'est pas des monologues du vagin.
Non, c'est ça. Ce qui est tout aussi cool. C'est autre chose. Non, c'est pas ça. Fait que, tu sais, nous, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser la masturbation féminine, d'essayer de miner le tabou qui l'entoure, puis d'encourager vraiment les femmes à être autonomes sexuellement, puis à prendre le contrôle de leur sexualité, parce que ça l'a plein d'avantages, plein de bienfaits.
On saute dans le sujet, parlons de masturbation féminine. Est-ce que les femmes se masturbent?
Oui!
Tu sais, ce que les études démontrent, c'est qu'il y a à peu près, ça dépend là, de l'échantillon, de l'âge, mais en moyenne, c'est à peu près... Tu sais, les études plus récentes disent que ce sera environ 85% des femmes qui se masturberaient. Par contre...
Qu'est-ce qu'ils font aux 15? Voyons.
Il manque quelque chose.
Mais oui!
Mais par contre, il y en a peu qui en parlent ouvertement. Ouais. Tu sais, les discussions, quand ils ont plus lieu entre amis. Puis même là, c'est pas dans tous les cercles d'amis. Donc, c'est encore un sujet qui est malheureusement... tabou. Il y a encore un inconfort qui persiste là, par rapport au sujet.
Ouais. Comment on change ça?
L'éducation. Moi, dans la vie, là, pour miner n'importe quoi qui est néfaste pour la société, là, je pense que l'arme le plus redoutable, le plus efficace, c'est l'éducation. Ouais.
Je suis tellement d'accord.
Ouais.
Tu sais, les connaissances, c'est détenir un pouvoir.
Absolument.
Puis c'est ce qu'on voulait faire. Il y a une bonne partie de notre livre qui traite de toute l'histoire entourant les sexualités des femmes. Puis c'est ce qu'on voulait faire, trouver, dans le fond, d'où provient ce malaise-là, comment ça, ça se persiste. Puis une fois qu'on est capable de mieux comprendre d'où ça provient, de prendre un certain recul, un regard critique, ouais. Bien, c'est là qu'on est capable de reprendre du pouvoir sur notre sexualité.
Ouais.
Truc que j'ai observé, tous les gars que je connais se masturbent et on a tous découvert tout seul comment le faire.
Ouais.
Est-ce que c'est la même chose pour les femmes?
Non, malheureusement. Puis tu vois, moi, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'aberrant, là. Moi, là, je ne connais pas un gars que la première fois qu'il a joui, c'était en partageant une relation sexuelle avec autrui.
Mm-hmm.
On s'entend, la première fois que tu jouis, en général, un garçon, c'est en se masturbant. Ouais. C'est quelque chose d'assez instinctif, c'est facile. L'organe est externe, ça ne demande pas de cours, OK? C'est assez simple. L'affaire, c'est que le clitoris, la majorité du clitoris, mis à part le gland du clitoris, est interne. On n'encourage pas du tout les petites filles à s'explorer. Les petites filles connaissent pas ça.
Moi, j'irais plus loin. Souvent, corrigez-moi si je me trompe, pour avoir parlé à plusieurs femmes, instinctivement, les femmes se touchent. Les petites filles de 5, 6, 7 ans
oui,
se touchent.
Ah, mais oui, on parle d'enfants. Oui.
Voilà, mais on leur dit arrêtez. Hey, ben oui. Hey.
Ben oui. Puis c'est là où on a des gros relents de notre histoire de nos sociétés patriarcales, dans le fond, qui ont totalement... C'est le contrôle de la femme qui passe par le contrôle de la sexualité de la femme. Puis ça, c'est tellement un réflexe judéo-chrétien insupportable. Oui, puis il y a quelque chose de profondément misogyne. Hein. Je pense que... je veux pas dire les hommes parce que j'aime les hommes, puis je sais tellement que vous êtes pas tous des misogynes, je suis vraiment pas là.
Juste moi. Mais,
juste toi. Bon, OK, Thomas, je m'adresse à toi d'abord. Tu sais, je pense que tu t'es senti menacée par la sexualité et le plaisir féminin.
Toujours.
Je pense aussi que il y a... je pense qu'une femme qui se fait jouir seule, ça a quelque chose d'intimidant, puis ça devrait vraiment pas.
Ouais.
Ça devrait pas parce que une femme qui sait se faire jouir seule va avoir beaucoup plus d'intérêt à partager une sexualité avec autrui et va avoir beaucoup plus de facilité à jouir et à tirer du plaisir de sa sexualité avec autrui. Ce qui veut dire que moi, là, toute la pression que la société te met à me faire jouir, je te l'enlève parce que je me connais, je suis capable. Mm-hmm. Tu comprends?
Bien, tout à fait.
Vous avez tout autant intérêt que nous à ce que nous connaissions notre corps et à ce que nous, à ce qu'on sache se donner du plaisir, à ce qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins, puis qu'on vous le communique clairement. Parce que sinon, pour vrai, pour vous, vous êtes dans le noir, c'est compliqué. Pas compliqué, mais c'est quand même un processus se faire jouer soi-même quand on est une femme. Imagine quand t'as même pas de vulve, de vagin puis de clitoris.
Ben moi, je dirais plutôt ce qui te fait jouer, en général, ça c'est propre à chacun, quoi que...
Tout à fait.
Alors, la meilleure manière de faire jouer quelqu'un, c'est de le faire communiquer.
Mais absolument. Oui. Mais pour être à l'aise
tous les hommes que je connais sont excités par une femme qui leur dit
ben oui.
Fais-moi telle affaire de
qui
telle manière à telle
vitesse.
Exactement.
Ses besoins.
Ouais. Oui, ça a quelque chose d'extrêmement sexy aussi. Là.
T'sais, je vais retourner un peu en arrière, mais quand tu as parlé du fait que les enfants, les petites filles vont se toucher, découvrent leur corps.
C'est instinctif, ça, hein? Ouais. C'est pur, pur.
C'est pour ça que chez les enfants, on parle plus d'autostimulation. Ouais. C'est pas de la masturbation parce que ça n'a pas la même connaissance. Même connotation, mais...
Ils savent pas ce qu'ils cherchent nécessairement, puis ils associent pas de désir sexuel.
Exactement, mais j'ai entendu une sexologue à un moment donné, c'était super intéressant, le parallèle qu'elle faisait, Émilie Nagoski, qui a écrit « Come as you are », puis en fait, elle disait que quand un enfant découvre ses orteils, on est comme « Oh, c'est-tu cute, un bébé, mettons. Mm-hmm. » Il découvre ses orteils, mais tu sais, si on voit notre bébé mettre sa main dans sa couche, « Oh mon Dieu, touche pas là, bon. » Mais ouais. Il fait la même chose, au même titre qu'il découvre ses orteils.
C'est essentiel.
Il découvre son corps.
Mm-hmm.
Ouais. Mais j'avais trouvé le...
Le parallèle intéressant.
Ouais. Puis tu sais, je dirais que même un peu plus vieux, là, au niveau de l'adolescence, admettons, là, tu sais... Bon, les petits gars se masturbent, c'est drôle. Tout le monde fait des jokes. Les petites mamans se mettent à faire « Oh, j'ai trouvé des Kleenex sur le bord de... » C'est que chez une fille, il n'y a pas de blague qui se fait. On n'en parle vraiment pas. Alors que même les gars entre eux, même ados, tu sais, ça fait des jokes de branlette. Il n'y en a pas de stress, là.
Les filles plus jeunes, je pense que oui. Je pense qu'il y a bien des femmes de maintenant... qui ont aujourd'hui 13 ans ou aujourd'hui 21, qui ont fait beaucoup de blagues sur la masturbation. Parce qu'il y a de plus en plus d'humoristes femmes.
Oui,
je veux dire,
c'est bien qu'on entende ça.
Moi, j'en fais partie, là, les hommes vulgaires qui parlent de sexe.
C'est pas vulgaire.
C'est excellent. Non, c'est
bref, des hommes qui parlent de sexe de manière assez crue. Mais il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans...
Mais c'est essentiel. Puis on a tellement été muselés longtemps que même d'aller trop loin, c'est pas assez loin. Tu comprends? Je pense qu'il y a vraiment du chemin à faire. Puis c'est bien justement de le rentrer par l'humour. Des fois, ça passe mieux quand t'es jeune, tout ça, c'est plus facile. Puis après, ça peut inciter justement à faire comme, hey, mais je vais, tu sais quoi? Plus sérieusement, je vais peut-être aller me renseigner.
Mm-hmm. Puis tu sais, je pense que ça peut être bien parfois de passer par l'humour, mais des fois aussi, il faut arrêter d'en rire. Tu sais, quand tu disais les mamans qui, puis là, c'est dans le cas plus des petits garçons qui disent, ah, tu sais, qui font des blagues, les gars qui font des blagues, mais pourquoi ça serait ridicule se masturber?
C'est zéro.
C'est comme si ça devient une pratique arabais. Tu sais, comme si c'est pas une pratique valable. On va en rire, on va juste faire des jokes.
Ouais, c'est juste pour les célibataires frustrés. Alors que tellement pas. Tu sais, la masturbation, c'est super sain au sein d'un couple aussi, là. Super sain. C'est un complément. Je veux dire, moi, des fois, j'ai envie de gâteau au chocolat, puis des fois, j'ai envie de gâteau à vanille. C'est juste, juste différent. C'est un moment pour toi que tu prends tout seul. Tu sais, c'est une manière de satisfaire un besoin autrement. Tout simplement, jamais on devrait se sentir menacé.
Ma blonde, puis moi, il y a un moment dans un film qui nous a marqué. Ouais. Le film Parasite, le film sud-coréen qui a gagné aux Oscars il y a deux ans. Là,
OK.
Le film, il y a un truc génial dans le film. Le couple baise.
Mm-hmm.
Mais comment ils baisent? C'est, ils font juste se toucher un à côté de l'autre. Et quand on a vu ça, on a fait « Ah! Ça fait tellement du bien! »
Mais
il y a tellement... Je veux dire, ça, là...
On le montre jamais.
Jamais!
Puis et c'est la excellent.
Chose... C'est pas vraiment... C'est excellent. La grande majorité des couples font ça. Majorité des couples qui ont une intimité... De temps en temps, ce qu'ils font, c'est « tu touches à ton bar, je me touche à mon bar, ensuite
c'est génial, là. Moi, pour vrai...
On n'avait jamais vu ça au cinéma, on a trouvé ça c'est génial.
Puis c'est une des premières choses, je trouve que... Hey, moi, là, je suis tellement curieuse d'envie, je veux voir comment tu te touches. Comment toi, tu te fais venir quand moi, je suis pas là? Ça me donne tellement de cue pour m'aider après, là. Même chose pour toi. Fait ça, là, je trouve que c'est extrêmement sain comme pratique.
Let's go, les Sud-Coréens. Let's
puis,
go.
Heureusement, on commence à avoir plus de représentations, tu sais, saines, diversifiées, parce que... T'sais, on en parle dans le livre, si on recule à quand nous, on était adolescentes, c'était tellement limité, c'était tout le temps justement l'image de la femme qui est frustrée, qui est accro à son vibrateur. Il y avait aussi où l'image de quelqu'un qui se fait surprendre pendant qu'il se masturbe, puis que c'est honteux.
Mais c'est gênant.
C'est sûr que ça peut être inconfortable, mais tu sais, il n'y avait pas de représentation positive à la télé. Puis il commence à en avoir quelques-unes. Il commence à avoir des femmes qui se réapproprient cette pratique-là. Si on pense à Beyoncé, qui a fait la toune Feeling Myself.
Miley Cyrus, Lady Gaga.
Il commence à avoir dans la culture populaire des référents à la masturbation.
Oui, il y avait aussi dans les années 80 She Bop, dans les années 80. Il y avait deux pop stars. Il y avait Madonna. Il y avait celle qui chante True Colors.
My God, ça me dit rien.
Attention.
Cindy Lauper. Chante.
Cindy Lauper, voilà.
She
Bop, c'est une chanson sur la masturbation.
Oui.
J'avais jamais. En fait, je pense qu'à ce moment-là, je connaissais.
Mais moi, non plus. Je comprenais pas trop que ça me dit rien. Là. Moi, avant les Backstreet Boys puis Spice Girls, c'est rien passé.
C'est bien. Je vais l'écouter différemment maintenant.
Parlons de vous. C'est quand la première fois que vous êtes masturbée?
Moi, je pense que clairement, là, vers 14 ans, c'est là que j'étais en mission. Comme, OK, c'est quoi l'orgasme? Je veux savoir c'est quoi. Puis tu vois, je sais pas à quel moment de mes 14 ans, mais la première fois que j'ai joui, je sais que j'avais 15 ans. Fait que ça a quand même été du travail, mais ça a valu la peine.
Non, mais c'est important de dire ça parce que la part des hommes, l'orgasme vient facilement. Chez les femmes, il y en a qui l'orgasme vient facilement, il y en a qui non.
Puis c'est correct.
Okay.
L'important, c'est juste de se donner le temps puis l'espace pour se découvrir.
Oui, puis il y a des femmes qui connaissent pas l'orgasme, mais qui ont tout autant de plaisir. T'sais, ça devient, on a l'impression que l'orgasme, c'est le but à atteindre.
Il ne faut pas se mettre de pression.
Mais il peut y avoir énormément de plaisir sans parvenir à l'orgasme.
Mais sont-on là-dedans, la pression de l'orgasme, un truc que je pense que les femmes, et les hommes hétérosexuels et les femmes vivent, c'est la calice de pression de l'orgasme.
Ah,
il y a une espèce de... C'est même une insulte. Tu fais pas jouer une femme, c'est une insulte que tu peux donner.
Mais ça, là, tu sais, ça revient un peu à ce que je te disais, là. Je trouve que, autant je suis une super féministe dans la vie, mais moi, là, je trouve ça, là, aberrant de remettre ma jouissance les mains de mon partenaire. Prends tes responsabilités, fais tes devoirs, apprends. Si t'es pas capable de te faire jouer, comment tu peux t'attendre à ce qu'un gars... Non, je comprends pas. Mm-hmm.
Ben, c'est une responsabilité qui devrait être partagée. C'est pas une responsabilité, mais, en fait, mais c'est
non,
un plaisir.
J'utilise ce mot-là, mais...
Puis, tu sais, il y a un... Là, je reviens par rapport à l'orgasme, il y a une pression, mais il y a un écart aussi quand on parle des orgasmes.
Incroyable.
Entre Tu sais, il y a une étude qui a été faite en 2017 par Archives of Sexual Behavior. Je prends tout à mon temps.
Ça a bien
c'est bien dit.
Puis, en fait, cette étude-là, elle a été démontré. C'était faite principalement chez... En fait, c'était faite chez des femmes puis des hommes qui se disent hétérosexuels, qui se définissent comme hétérosexuels. Et ils ont vu qu'il y avait un énorme écart orgasmique entre les hommes et les femmes. Ouais. Si on regarde, tu sais, les hommes qui avaient eu des relations sexuelles dans le dernier mois... La majorité ont dit, 95% ont dit être parvenu à l'orgasme à chaque fois, ou presque. Puis quand on regarde les femmes, ça tombait à 65%. Puis quand on regardait, on comparait, admettons, avec des femmes dans un couple avec une autre femme, ça tombe à 86%.
Let's go!
Fait qu'on peut se poser des questions sur ce qu'on nous envoie comme message en tant que société, justement de laisser notre plaisir à l'autre, de mettre de créer une anxiété de performance aussi pour l'autre. Il y a plein de choses qu'on peut questionner là-dedans.
Oui, puis il y a quelque chose de vraiment, en tout cas, qui me font frétiller les ovaires là, de féministe. C'est vraiment que... je veux jouir à part égale, sinon plus que toi. Puis je veux que ma fille prenne autant de plaisir dans ses relations que mon fils. Même ça me semble être une inégalité pour laquelle il faut monter au front.
Puis moi, je suis d'avis que la frustration sexuelle, ça a des réels impacts.
Oh mon Dieu, c'est sûr. Les groupes d'hommes là, misogynes qui se mettent ensemble pour bâcher les femmes puis qui en viennent à tuer, là, ben absolument, ça part de là. Absolument. Ah, oui. Elle t'a tellement raison, Thomas. Ouais.
La sexualité peut tellement devenir un lieu de contrôle sur l'autre. Tu sais, quand on parlait des violences sexuelles,
de frustration,
c'est dommage, ça devrait pas être ça.
Puis de l'autre bord, parlons-en, parce que moi, c'est une joke, mais des fois, je trouve ça très violent. L'espèce d'idée de oh, ta femme, elle voudra pas coucher avec toi si tu fais ça. Ça, c'est aussi terrible que...
Ça, ouais.
Ben oui, c'est
l'espèce
une forme de violence.
De t'auras pas ton anane, là, de jouer avec le besoin de l'autre qui a peut-être une libido plus forte pour...
Ouais, ou que le sexe, c'est une récompense.
Ouais, mais moi, je trouve que ça, c'est dépassé. Là. C'est un
affaire... Non, c'est pas dépassé. C'est encore le cas. Dans tes cercles, peut-être c'est dépassé, mais c'est encore une réalité.
Mais pour vrai, c'est vraiment malheureux parce que je vois pas, tu sais... La sexualité, là, c'est un besoin fondamental. Mm-hmm. Puis on joue pas avec ça. C'est comme si je disais à mon enfant, « Ah, oh, t'as pas fait ta chambre? Ben, tu souperas pas ce soir. Mm-hmm. » Tu sais, puis il y a aussi... Il y a des dynamiques de couple où un partenaire fait sentir à l'autre que s'il se masturbe ou qu'il utilise la pornographie, il trompe, puis qu'il faut pas qu'il se fasse... Mais ça aussi, c'est un contrôle, puis c'est super malsain, là.
J'ai déjà dit ça à un de mes amis me disait... Yo, ma blonde, elle veut pas que je masturbe. Puis j'ai dit, ben, dis-y pas.
C'est inacceptable. Ben non, fais-le.
Dis-y pas, puis c'est tout.
Tout à fait.
Elle sait pas bien que le fait que tu te masturbes.
Ben non.
En plus, on est en début vingtaine aussi. Là, il y a des choses à régler. T'as pas à gérer ça. Masturbe-toi quand on va travailler, puis passe à autre chose.
Quand on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tantôt, Roxane l'a dit.
C'est vrai de tromper. Qui aurait cru?
Ça répond à des besoins différents, tu sais, se masturber ou avoir des relations sexuelles avec une ou des partenaires, tu sais. Des fois, t'as envie d'être seule, c'est comme aller prendre une marche, ou des fois, t'as envie d'aller prendre une marche seule, en profiter, regarder dehors, pas parler.
Qui parle de masturbation, parle de pornographie.
Oui.
Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez de la pornographie?
Moi, j'aime ça.
OK.
Moi, dans la vie, j'en consomme, je suis quelqu'un de très
laquelle? Qu'est-ce que t'as? Parce que c'est vaste aujourd'hui. Quel genre de porno? Pornhub, première page ou
non,
t'es plus...
Pornhub, oui. C'est de chez nous. On s'encourage local. Non. Mais, mais j'aime bien explorer. J'aime bien savoir ce qui se fait. Pure curiosité. Là, je dois être perverse un peu aussi. C'est bien assumé chez moi. Je trouve ça stimulant aussi. Je trouve ça le fun d'en écouter en couple. Moi, j'aime ça. Par contre, il y a aussi des fois où je le regarde avec un certain détachement puis qu'il y a beaucoup de choses qui m'irritent, là. Tu sais, je te dirais que ça m'apporte souvent une critique sociale.
Mm-hmm. Laquelle?
En fait, admettons, si on parle de, justement, première page Pornhub, là, ce que tout le monde regarde, de la porno dite traditionnelle, là.
Mainstream, disons.
Mainstream, écrite par l'homme blanc pour l'homme blanc, là. Il y a des patterns extrêmement choquants, justement, tu sais. Ça finit immanquablement par l'éjaculation de l'homme. L'orgasme féminin, des fois ça arrive, surtout pour exciter l'autre, mais c'est accessoire. Le fait que, bon, toutes les femmes se ressemblent, l'image corporelle, le corps, la vulve, tout comment ça s'est traité, la violence, parfois sous-jacent, l'absence de consentement. Tu sais, des fois, c'est très dans le... la domination, tout ça.
T'es pas d'avis que... Là, je défends la pornographie.
Vas-y.
Sur ce point-là, là, puis c'est pour discuter, là. Que quiconque regarde la pornographie se dit que c'est... On le sait par la suite, que malheureusement, on s'est su qu'il n'y a pas de consentement, mais n'importe qui se met devant un film porno se dit qu'il y a du consentement parce que c'est un film. Ils se sont parlé avant. Il y a un avant et un après. Je défends les consommateurs.
On se questionne pas. Tu sais, des fois, mettons, tu visionnes de la pornographie, il y a certaines personnes qui se questionnent pas à ce sujet-là.
Oui, des fois, t'es juste excité, t'as le goût de texter.
Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'en tant que client, tu te dis, tout va bien, un peu comme quand tu regardes un film d'action, quand quelqu'un mange une volée, tu te dis pas, pauvre acteur, ben non, tu sais très bien qu'un consentement, il y a un scénario, et je me dis que c'est la même chose pour un film porno.
Oui, puis tu sais, je dirais peut-être, par rapport à ce que Roxane disait tout à l'heure, qu'il y a aussi dans la pornographie mainstream, on exploite beaucoup... On érotise, on fétichise beaucoup les personnes qui sont plus marginalisées, tu sais. Puis si je donne un exemple, des fois, on va pouvoir sélectionner un film grosse femme ou tu sais, des films avec des personnes noires ou avec, je sais pas moi, des personnes plus petites. Ou tu sais, il y a une
L'inceste, disons, il y a beaucoup d'inceste dans la pornographie. Là. Ben oui, les MILF.
Ah, OK, ouais,
Stepmom, sa sœur, le masturbe, l'inceste, c'est très présent dans la pornographie.
Oui, il y a des choses qui peuvent aller...
C'est vraiment ça, là.
Ben, c'est un jeu d'inceste.
Oui.
Quand tu dis
que ça représente...
une mère a surpris son gars de se masturber puis elle finit, c'est de l'inceste.
C'est vraiment questionnable.
OK, ça, tu vois, je l'ai pas tant exploré.
Ça fait qu'il y a certaines personnes qui vont consommer de la pornographie. Tu sais, on soulève justement dans nos écrits que... Il y a des femmes, admettons, ça pourrait être des personnes de tout genre, qui vont consulter la pornographie, mais des fois, qui vont avoir des malaises par rapport à leurs valeurs. Et j'écoute ça, mais ça ne fit pas. Fait que, tu sais, il y a une honte, des fois, un tabou à dire que j'écoute de la pornographie à cause de ça. Mais dans ce temps-là, tu sais, si on regarde, c'est pas parfait. Il y a des abus de pouvoir partout. Mais la pornographie féministe, ça peut être un lieu où est-ce que le consentement est souvent montré de façon implicite ou totalement explicite dans les films.
Le plaisir de la femme est central.
Qu'est-ce que vous pensez?
Où on retrouve des corps diversifiés.
Moi, j'ai lu la biographie de Jenna Jameson. Oui. Et le premier truc que tu comprends sur Jenna Jameson, c'est une femme qui a vécu des agressions sexuelles et qui a des graves problèmes de consommation de crystal meth. Elle a fait de la pornographie, mais elle a été bousculée, cette femme.
Ouais.
Je pense que c'est le cas, je m'avance, je pense que c'est le cas de plusieurs femmes qui font de la pornographie. Il y a beaucoup d'histoires de viol.
Moi, c'est ce que j'allais dire.
Sur les plateaux, maintenant, c'est ça. C'est... Ouais. Et ensuite, avant d'aller là. Alors, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qu'on dit? Et comment on se sent par rapport à la pornographie? C'est déjà, pour te rendre là, en tant que femme, en grande majorité, tu as vécu des blessures
absolument
sexuelles.
Mais moi, c'est ça que je trouve difficile. Je sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire Netflix, il me semble, là-dessus. Puis
c'est fait par la fille de Lionel Richie.
Oui, il me semble. Là. OK, exact.
Je pense que c'est Girls Wanted.
Ouais. Oui, c'est ça. Puis tu vois à quel point elles sont jeunes, à quel point elles sont prises de milieux familiaux à problème. Justement, elles ont vécu de la violence, des agressions sexuelles déjà. Tu sais, c'est souvent des jeunes filles influençables qui ont besoin de sous, qui sont... Fait que, tu sais, le gros bout du bâton, là, revient encore à celui, le pourvoyeur qui lui vend du rêve.
Tu sais, j'ai un ami qui me...
T'es un ange où t'es naïve. T'es déjà, écorché par la vie, disons.
Aussi, t'es jeune.
T'es très jeune, t'es que super naïve.
Tu fais ça à 18, 19 ans, 20 ans.
Puis après, t'es jeté.
Malheureusement, il y a beaucoup d'abus de pouvoir, tu sais. Mais il y a aussi des femmes qui désirent le faire, qui sont agentives. Puis en fait, c'est une façon...
C'est eux autres que je veux voir. Moi, ce qui m'excite, c'est voir une fille qui jouit pour vrai puis qui est contente de faire ce métier-là.
Puis en tant que consommatrice, mettons que, ou consommateur, ben tu peux aller t'informer. La plateforme que j'utilise, c'est est-ce que les femmes sont bien traitées? Est-ce que, tu sais, il y a des sites... on peut regarder pour trouver justement quand on parlait de pornographie féministe, il y a des femmes qui réalisent des films pornographiques, puis tu sais, on peut aller se renseigner.
Une femme peut exploiter une femme.
Comment?
Une femme peut exploiter une femme.
Ou
moi, c'est un argument que j'ai
toujours...
Effectivement, on en a vu des abus aussi dans ce milieu-là, mais si on se renseigne, puis qu'on choisit des plateformes qui ressemblent plus à nos valeurs, il y a quand même...
Il y a moyen de trouver quelque chose d'éthique.
Mais oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Il y en a des abus quand même. C'est pas parfait, là, la pornographie féministe.
Wow. Mais quand c'est bien fait, c'est excitant, c'est le fun, puis que tout le monde y trouve son compte. Oui?
Ou on accepte que c'est de l'exploitation, un peu comme plein de, un peu
non,
comme nos iPhones.
Pas ça.
Mais on dit ça, mais je veux dire, on accepte que nos iPhones, c'est des gens qui sont exploités, qui prennent l'art, qui sont dans nos iPhones. On accepte que nos vêtements, c'est des gens qui sont exploités.
Cachent les yeux ou.
Ouais.
Moi, je pense qu'on a ces informations-là, mais on l'accepte. Je pense que la pornographie, ça, on sait peut-être dans le.
Ben, on peut ne pas l'accepter. Tu sais, comme admettons, moi, je peux décider de ne pas visionner de la pornographie gratuitement.
Elle existe quand, mais elle existe quand même.
Oui, elle existe, mais moi, en tant que consommatrice.
Tu veux pas l'encourager.
C'est ça, je peux choisir de payer pour un site parce que je sais que les gens sont mieux. Tu sais, je peux décider de, admettons, d'acheter
Only
un
fans,
livre.
OnlyFans, comme je sais que cette femme-là a joui.
Oui, c'est ça, c'est elle qui gère ces choses.
Good job!
Je peux décider d'acheter un livre, pas, on parle de pornographie, mais ça pourrait être des livres érotiques. Je peux décider d'encourager une autrice qui écrit, tu sais, ici, il y a Mélodie
Il y a Julie Bré, moi, que j'aime beaucoup. Ouais,
Anarchie.
On peut, oui,
ou
oui, qu'on en parle,
en
achète.
Oui, ouais, exact. Puis,
fait qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on consomme. Tu sais, au même titre que mes vêtements, je peux décider d'encourager, ouais, à, mettons, tu sais, le chandail que toi, je peux décider d'encourager une entreprise québécoise. Mais
c'est
je
ça,
peux aussi.
Fait qu'il faut se masturber local.
On essaie de se masturber local. Ça,
se masturber local.
Bio aussi, c'est bien important.
On encourage Pégase.
Bio sans gluten.
Sans gluten. Sans lactose pour moi.
Ah oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce que vous pensez de la... Excusez-moi, je suis un peu confus, c'est mon erreur. Comment on peut enseigner... Est-ce que ça s'enseigne la masturbation à ses enfants ou tout le monde apprend ça par soi-même? Parce que c'est quand même, disons-le, nouveau d'entendre qu'on enseigne ça à nos enfants. Est-ce que ça se fait? Comment on fait ça?
Ben moi, pour avoir des enfants, puis tu sais, moi, j'ai pas de cours de ça, mais tu sais, moi, mettons, ma petite fille, c'est où son clitoris? Bon, c'est le gland de son clitoris, parce que pour l'instant, elle a 5 ans. Je vais pas t'expliquer comment c'est fait. Puis ça, ça a pas d'utilité. Mais tu sais, juste niveau hygiène, quand elle se lave, bon, ben on lave bien partout, tatata, autour du clitoris. On nomme. Tout autant que mon fils sait c'est quoi son prépuce, puis son gland, puis qu'il faut retirer, bon, quand il se lave. Tu comprends? J'y vais étape par étape. Mais, tu sais, mettons, moi, mon fils, depuis longtemps, puis ma fille aussi, comprennent ce que c'est un cycle menstruel, puis pourquoi maman, elle saigne une fois par mois. Je veux pas qu'il y ait de dégoût par rapport à ça. Je veux que ce soit quelque chose de... Tu sais, on essaie de raise good human. C'est vraiment ça. Là. Je pense qu'on essaie des choses aussi naturelles que la sexualité, la nudité, le corps. Parlons-en, soyons à l'aise. Je pense que c'est important. Par contre, je comprends que c'est pas tous les parents qui sont outillés et ni à l'aise à le faire. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas tout eu une éducation super ouverte, hein, tu sais. Sauf que, rendu là, je pense que la société a un travail à faire, de elle prendre la relève des parents pour justement ces parents-là qui sont pas à l'aise. C'est là que j'espère que notre livre va se retrouver dans le plus d'établissements scolaires possible, parce que je pense qu'il y a un devoir de baquer ces enfants-là qui n'ont pas nécessairement des parents outillés pour
Mes femmes, hein, parce que savoir comment une femme se masturbe, c'est très bon.
Oui, des personnes de tout genre, tu sais.
Exact.
Et les gays aussi, de savoir comment tes amis se masturbent, c'est bon.
Toute orientation sexuelle, vraiment. Tout genre, tu sais, homme, femme, personne non binaire, peu importe comment tu te définis, je pense que ça peut résonner pour tout le monde en quelque part.
Ouais.
Puis en fait, tu sais, quand tu parles des écoles, mais en maintenant, avec les contenus pédagogiques en éducation à la sexualité dans les écoles primaires, secondaires, au secondaire, le plaisir sexuel fait partie des thèmes.
C'est essentiel. On peut pas encore juste parler de la protection puis des ITS. Oui, il faut en parler. Je suis d'accord, c'est super important. Mais on peut pas juste en parler de cet angle-là. Faut comprendre.
Mais la meilleure manière de prévenir les ITS, c'est la masturbation.
Ben, et voilà!
Tu t'es lié.
Puis, t'as raison.
Puis, en fait, tu sais.
Tu te branles, tu pogneras pas le VIH.
Ben non!
Tu l'as déjà souligné à un moment donné dans des discussions qu'on avait, puis dans ton petit mot dans le livre, mais chez les filles, surtout, on a tendance beaucoup à dire aux filles, fais attention, protège-toi, habille-toi pas comme ça. Tu sais, on a tendance à les sur-responsabiliser, puis à oublier de leur parler de plaisir. Ouais. Dans notre éducation, là.
Ouais. Mais oui, je pense que c'est faisable comme parent de en tout cas, de faire un bout de chemin, d'introduire, puis Je pense que le reste, tu sais, nous, j'ai tenu à envoyer le livre. En ce moment, on a un ministre de l'Éducation avec la CAQ, mais on a deux sous-ministres. Ministre de l'Éducation au niveau...
secondaire?
Niveau...
établissement d'enseignement supérieur.
Ouais, oh. Établissement d'enseignement supérieur et l'autre, que je sais pas quoi dire, mais que c'est primaire, secondaire. Et elle, c'est aussi la ministre de la condition féminine. Bref, on leur envoyait, ces deux femmes-là, le livre. Puis pour vrai, je croise les doigts qu'elles écoutent ton podcast puis qu'elles aient le livre entre les
mains. J'espère que non. Pas une chose qu'écouter mon podcast. Yo, les filles, travaillez. Vous avez l'État à gérer, là. De la pandémie,
c'est important
l'éducation.
Des fois de prendre le pouls.
Arrête d'écouter les podcasts qui changent l'air d'une classe. Qu'est-ce que tu fais là?
Ah, c'est sûr que... C'est
oui!
Mais bref, tu sais, on veut que ça soit accessible, là.
Je comprends.
C'est là qu'il faut que ça se passe. C'est là qu'il faut donner les outils aux jeunes filles.
Puis, tu sais, quand on parlait de... C'est pas tous les parents qui sont outillés, non, à l'aise de parler, non, avec leurs jeunes. Mais aussi, on peut y aller juste avec le fil des questions. Tu sais, déjà, ben, qu'on enseigne c'est quoi les différentes parties du corps. Mais si mon enfant vient me voir puis il pose une question, ouais, de répondre à la question, tu sais, avec transparence. Déjà, exactement, c'est... Ouais. Faire de l'éducation à la sexualité, tu sais, sans que ça soit je m'assois avec toi, je rouvre le livre,
ouais,
puis je te montre.
Être lourd, là.
Oui, parce que moi, l'image que j'avais.
Tu peux dire, hey, mon amour, je sais pas, mais puis référer ou acheter un livre.
Tu peux
admettre qu'on sait pas tout, ben comme, oui, adulte, c'est tellement important.
Montrer que ça existe.
Exact.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous dites à une femme qui n'arrive pas à avoir d'orgasme? Hey, les filles, j'arrive pas à avoir d'orgasme. Vous dites quoi à ça? En tant qu'ami, on va commencer en tant que professionnel de la sexualité.
Oui, je vais laisser.
Ensuite, en tant qu'ami.
Ouais. Qu'est-ce que je dis? Eh bien, ça dépend de son parcours, tu sais, ça dépend de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas parler pour quelqu'un que j'aurais dans mon bureau, admettons. Mais, tu sais, moi, je dirais à une femme, tu sais, qui a de la difficulté à parvenir à l'orgasme, ben je lui dirais qu'elle n'est pas seule. Tu sais, de sentir validée. Il y a beaucoup de femmes qui n'y parviennent pas. Puis, en fait...
C'est un des numéros les plus populaires de l'histoire du Québec, c'est le point G. Mais en bout de ligne, le point G. On oublie le point G. C'est une femme qui n'arrive pas à jouer comme les autres.
On y revient au point G, on a des affaires à dire là-dessus.
OK, on commence par ça.
On va t'apprendre plein d'affaires.
Fait qu'on va venir là-dessus, puis après ça, on pourra parler du point G. C'est intéressant. Fait qu'en fait, c'est ça. Je lui dirais qu'elle n'est pas seule. Tu sais, je viendrais valider son vécu. Puis lui dire aussi, tu sais, en fait... On nous a toujours appris, c'est compliqué une fille. C'est complexe parvenir à un orgasme. C'est pas... Tu sais, mais c'est possible.
Ça dépend quelle femme. Les femmes, c'est très
simple. Puis, en fait, on est tous différentes, mais la majorité des femmes, si elles se laissent aller, si elles apprennent à découvrir leur corps, leurs préférences, ont la possibilité de parvenir à l'orgasme. Puis, ça sera peut-être pas aujourd'hui, mais il faut aussi, puis je lui dirais aussi que, tu sais, ça peut être très plaisant, explorer, découvrir, se laisser le temps, tu sais. Puis... L'orgasme, je peux comprendre qu'une personne pourrait avoir envie de le découvrir, de le connaître, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être plaisantes, tu sais, quand on parle de sensations, puis de se connecter à soi. Fait que j'irai un peu dans cet angle-là.
Ta chum m'a dit « je viens pas », qu'est-ce que tu lui dis?
Je regarde avec elle, si elle a pas mal tout essayé, ce que je connais comme petits tricks. Puis après ça, je te dirais que...
C'est quoi des tricks?
Ah, c'est quoi? Mes tricks?
Mm-hmm.
Ben, il y a pas juste la masturbation traditionnelle, coucher sur le dos à se frotter. Moi, je pense que explorer à califourchon en se frottant sur un objet X, coussin, oreiller, drap, quelque chose. Moi, je trouve ça super efficace. Sinon, je pense un peu comme Mel que c'est important. Tu sais, on parlait tantôt de la pression de jouir. Puis ça, c'est touché parce que physiquement, toute femme à moins d'un handicap, là, de ne pas avoir l'organe du clitoris, quelque chose comme ça, est capable de jouir.
Ou donc, d'être blessé, d'avoir été blessé avec un accident.
Mm-hmm. Exact. Mais tu sais, dans le cas où tu as ton clitoris et tout est intact, physiquement, tu peux jouir. Donc, c'est un blocage psychologique, émotionnel. Puis ça, je trouve ça touché parce que j'ai l'impression que plus, des fois, tu sais, plus tu veux quelque chose, plus tu veux dormir, astille, moins ça vient. Plus tu te mets de la pression, ça ne va pas là. Fait que je pense aussi que c'est comme juste... Tu sais, des fois, d'apprécier la route avant de se rendre à destination.
C'est, ouais, c'est comme la création. C'est, comment trouver une bonne idée? Arrête de te mettre la pression d'avoir une bonne idée. Écris, puis peut-être quelque chose va jaillir.
Amuse-toi, c'est ça.
Puis tu sais, toute personne n'a pas le même niveau de confort avec son corps. Tu sais, si admettons, moi, tout dépendant, on a parlé de l'éducation, de mon éducation, peut-être que pour moi, la masturbation, là... C'est tabou, puis tu sais, ça se peut aussi que j'ai vécu des violences sexuelles, puis que
les
me toucher. Tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, avoir du plaisir, parvenir à l'orgasme peut être plus difficile. Puis je dis peu parce que c'est pas tout le monde que ça va avoir ça comme incidence. Mais notre vécu, notre rapport à notre corps, il y a plein de choses qui...
Aller chercher l'aide auprès des spécialistes, vraiment. Là, soyez proactifs. La sexualité, moi, je pense que c'est primordial dans une vie, tu sais.
Être mal baisé, c'est un vrai problème.
Mais...
Gars et filles, gays, tout, là. Être mal baisé.
Mais juste être autosuffisant sexuel...
C'est génial. C'est l'autonomie. Génial. La masturbation, c'est l'autonomie.
C'est exactement
c'est
ça.
C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, tu sais.
Tout à fait.
Puis il y a des personnes qui...
Et se masturber, c'est une sexualité tout à fait adéquate. Mm-hmm. Ça peut être ça, ta sexualité. T'as pas à sentir mal.
Oui. Ah,
t'as pas à rentrer dans une relation amoureuse que t'aimes pas avec quelqu'un en disant « Je suis incomplet, je suis pas en couple. No! »
Oh mon Dieu, tellement. C'est ça qu'il faut comme briser, là, comme image, là. Ta sexualité, là, elle viendra pas de l'autre. Tu peux avoir une sexualité super diversifiée puis épanouie seule. T'sais, ça vient pas nécessairement du couple.
Et mais fait le point G.
Le point G. Oui. Pow! Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce dont on devrait parler,
c'est... Lise Dion a raison.
Lise Dion a raison, hein. Faut qu'elle arrête de le chercher. C'est fini. Je lui ai dit l'autre jour sur le plateau de Sébastien Diaz lundi.
Pauvre Lise, tout le monde lui parle de son point G. Elle doit être tannée, là. Ah, tout le monde la connaît pas. Moi, mon point G, je l'ai pas trouvé. Moi, je suis avec mon tel épicerie, là. J'achète de la rhubarbe.
C'est juste de choisir mes céréales.
Madame.
Non, je te jure, c'est elle qui m'a demandé.
Je comprends, je déconne.
Donc pas. Mais faut parler, en fait, du complexe clitoro-urétro-vaginal. OK? Ce que c'est, en fait, là, c'est que c'est une région. Mel pourra te le dire plus précisément, là, à l'entrée, mais dans le
fond... Oh, le fameux crochet!
Ouais, mais le crochet!
En fait, c'est que le premier tiers... Ouais, le premier tiers du vagin, admettons, est plus sensible aux sensations. Pourquoi? Mais c'est entre autres parce que c'est le complexe clitoro-urétro-vaginal. Le clitoris est comme déposé. Il y a une image, là, c'est plate, faudrait la trouver.
Il est comme à cheval.
Ouais.
On est sur YouTube, si on voit des images,
je vais le mimer. Oui.
J'ai essayé d'obtenir un clitoris en 3D pour l'amener, mais j'ai pas réussi à l'avoir à temps.
Tu veux pas de YouTube, je serais pas content. C'est malheureux, mais YouTube, on peut pas montrer des.
Ah, pour
vrai? C'est américain.
Mais tu vois ça, c'est débile. C'est attardé.
Ben oui. Puis.
On peut reparler.
Ben, en fait, c'est réducteur, c'est limitatif. Puis
c'est gentil, tu vois-tu comment Mel est plus gentille que moi?
Mais j'aurais apporté le clitoris dans son entier, tu sais. Mais bref, le clitoris, en fait, il chevauche l'urètre, puis il chevauche le vagin. Fait que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un, par exemple, va toucher au premier tiers de son vagin, bien, ça stimule en même temps, avec la paroi qui est collée, ça stimule en même temps le tissu glandulaire de son urètre, puis ça stimule le clitoris, fait que c'est ça, en fait, qu'anciennement, on appelait le point G, parce qu'il n'y a pas un petit point en particulier, c'est une zone qui est plus sensible. Oui. Puis, en fait, pourquoi ça s'appelle le point G? C'est dans les années 80, il y a Beverly Whipple puis ses collègues, Beverly Whipple, qui était une sexologue, qui a sorti un livre, puis l'objectif était, en fait, très humble. Au début, il y avait beaucoup de femmes qui éjaculent, puis qui se sentaient stigmatisées, inconfortables. Il y avait un tabou entourant ça, puis eux ont voulu adresser ça dans leur livre. Mais tout ce qui a été retenu, c'était la notion du point G. Plein de compagnies qui ont commencé à faire de l'argent là-dessus. Pourquoi ils ont appelé cette zone-là à l'époque le point G? C'était en l'honneur de Graffenberg, un homme évidemment, qui a décrit cette région-là plus spécifiquement. Mais on devrait plus parler de ça.
Et dont les méthodes de recherche étaient plus que douteuses, si je me souviens.
Ça, c'est Skin.
Ah, c'est Skin. OK, ouais. Bon, là, je me mêle dans mes... Mais en fait, le point G aussi, t'sais, ça a comme... partie l'histoire de l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien.
Qui est faux. Ah,
complètement faux. Peu importe d'où tu sens provenir ou partir ton orgasme, il est immanquablement clitoridien. Mm-hmm. C'est d'ailleurs le seul organe humain qui n'est consacré qu'à la jouissance et au plaisir.
Oui, ben, c'est ça, en fait, c'est que c'est pas clitoridien ou vaginal, comme tu as souligné, parce que le clitoris est toujours stimulé d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Puis ça se peut que... Mais la stimulation, elle peut être différente. Ça se peut que tu aies obtenu un orgasme en touchant tes seins, en dormant. Il y a des femmes qui connaissent...
Des hommes aussi, plein d'hommes, ça
révèle
dans les
éjaculats. Oui, tout à fait. Mais, tu sais, même quand... On en a parlé aujourd'hui. Même quand une femme, par exemple, dort puis qu'elle connaît un orgasme, souvent, Et en tout cas, est-ce que les autrices,
j'aime
les auteurs...
J'aime ton expression, elle connaît un orgasme. Pas lui, elle connaît un orgasme.
Elle connaît. Elle connaît un orgasme.
Chanter l'orgasme.
Je suis bien contente de te rencontrer.
C'est bien agréable.
Mais oui.
Mais en fait... en fait, bref, quand elle obtient un orgasme...
Oh, je préfère connaître. Moi, je dis ça maintenant.
T'aimes mieux connaître.
Oh, c'est ouais.
Que, fait que... Donc,
je vais faire ma blonde. Veux-tu connaître un orgasme?
Veux-tu faire connaissance avec...
oui, veux-tu faire connaissance avec le gros O?
Donc, bref, quand elle dort puis qu'elle obtient un orgasme, mais souvent, sans se rendre compte, il y aurait une contraction des cuisses. Puis en fait, ça viendrait stimuler avec la contraction, la contraction des muscles pelviens, ça viendrait stimuler le clitoris. Fait que même là, si je dors, j'ai obtenu un orgasme, mon clitoris est sollicité en quelque sorte.
Fait qu'on doit arrêter de virer fou avec le point G. Je suis content.
Oui. Il y a plein de zones. Puis tu sais, les zones érogènes, on génitalise beaucoup,
ça
mais...
Ça varie tellement mm-hmm. d'une oui. femme à l'autre, d'une personne à l'autre.
Tu sais, explore. Se faire caresser, tu sais, la nuque,
ah,
les
ouais.
bras.
Se faire clignoter l'oreille, se faire chuchoter, là, ça te donne des frissons, c'est le fun, ça. Il y a plein, tu sais, je veux dire...
Plein de possibilités.
Oui, exact. Faut pas se limiter, là. Faut pas se limiter pas à ce limiter. Qu'on se connaît, puis... À ce qu'on connaît, puis faut pas non plus laisser Pornhub éduquer nos enfants.
Je comprends. Vous êtes quoi aux hommes qui font pas cunnilingus?
Oh non, c'est triste. Pourquoi? Il y a des hommes qui font pas ça?
Faut que tu te dis à moi, je sais pas. Là.
Je sais pas, tu fais des cunnilingus?
J'ai fait des cunnilingus.
Je suis
fier de toi. Fier de toi.
Mais si on se fie au courrier qu'on reçoit, c'est pas tous les hommes qui aiment faire des cunnilingus, ça
ben,
des one night ou des.
Oh non, ok, mais. Non, attends, là, j'ai mal réagi, je me reprends. Je pense que faut respecter tout le monde dans ses limites. Puis je pense que c'est important de respecter nous-mêmes ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mm-hmm. Si quelque chose te répulse, c'est bien de se respecter là-dedans. Moi, la seule affaire que je pense qui est vraiment importante, c'est quand tu as le désir d'être en couple, de trouver un partenaire avec à qui ça convient. Parce que moi, là, je pense... Tu sais, souvent, tu entends... Ah, ben, elle donne pas de sexe, le pauvre, ta-ta-ta. Puis... Là, mettons, le gars, il trompe la fille, puis là, c'est lui le trou de cul. Puis là, je suis comme, ouais, mais comme, elle donnait pas de sexe. Puis en même temps, je veux pas que la fille se force. Je pense juste que c'était des gens qui étaient mal agencés. Mm-hmm. Parce que je pense que pour un couple, là, avant de comment ça va, tu veux combien d'enfants, tu fais quoi dans la vie, faut que ça clique sexuellement. Faut que tu aies une, je pense, là, puis je suis zéro une spécialiste, mais je pense qu'il faut que tu aies une libido compatible. Je pense qu'il faut que tu aies quand même des envies ou que tu fasses comme, hey, ce soir, t'as envie, moi non, va te masturber, chérie, high five, on s'en va tantôt. Mm-hmm. C'est super sain. Mais, tu sais, si toi, tu tripes fellation, puis que moi, ça me dégoûte, puis que j'en fais pas, c'est correct que ça me dégoûte, puis que j'en fasse pas, mais faut peut-être trouver un gars qui tripe pas tant là-dessus, tu sais.
Mm-hmm. Puis, tu sais, je pense aussi que ça arrive souvent, tu sais, on le voit en tout cas beaucoup dans les couples hétérosexuels. Il y a un gap, des fois, au niveau du désir. Puis ouais. ça peut créer des conflits, ça peut créer de la pression pour un ou pour l'autre. Ouais. Tu sais, dans tout type de couple, mais c'est juste que ça ressort encore plus.
Un truc qui ressort souvent, c'est. Il y a plusieurs. C'est un phénomène que j'observe souvent. Beaucoup, beaucoup de femmes vivent ça, vivent que c'est leur homme qui n'a pas une grosse libido.
Oui,
il peut.
Ça arrive énormément. Ça arrive beaucoup de femmes qui. Coucher avec un homme là, pour la première fois, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il ne couche pas avec n'importe qui. Il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle. Mais si la connexion émotionnelle est là, on y va. Puis souvent,
ils tiennent pas le rythme nécessairement. Mais tu sais, j'apporte une autre alternative. Ton type, c'est couple ouvert. Là. Mm-hmm. Moi, je pense
On niaise, là. C'est la joke. Là.
Ouais, on niaise. Oui. Mais moi, je te le dis. Là,
ça pourrait ne pas être une joke.
Ouais,
ça
non,
bien,
parce que c'est un podcast humoristique.
Oui, mais tu sais.
Non, mais ça serait correct.
Non, mais moi, ce que je veux dire, tu sais, admettons, on est un couple. J'ai plus de désir sexuel pour toi que toi pour moi. Bref, on s'aime, on est super heureux. Puis je dis, hey, Thomas, c'est-tu correct si j'ai un ami sur le site qui. Sexuellement qu'on pense de temps en temps, on se protège tout, puis tu me dis c'est fine. Yeah! Mm-hmm. Pourquoi ça se voit pas plus souvent?
Ben oui, on parle beaucoup de couple.
Je pense qu'il faudrait
mais...
miner aussi beaucoup l'espèce de d'aspect possession de l'autre, puis de jalousie, là. Je pense que c'est une construction sociale de marde encore.
Oui, puis tu sais, on parle beaucoup du couple. Le couple est beaucoup mis sur un piédestal. Il y a beaucoup de gens là, qui espèrent trouver la personne, tu sais, spéciale, puis que cette personne-là... Oui, c'est ça, mais maintenant, il y a tellement... On parle plus des différents types de configurations amoureuses, tu sais. Mmh. On peut être à trois, on peut avoir des amis plus intimes, avoir... Tu sais, il y a tellement de
Pourquoi
types
pas?
De relations.
Pourquoi pas? Pourquoi on...
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Parce que c'est ce que j'aime du couple, moi. À quelque part, le couple. Tu sais, vous dites que le couple, l'autre personne, veut combler tous ses besoins. Ce que j'aime du couple, c'est que le couple, y a, ça vient avec une certaine frustration, puis tu sais que c'est pas l'autre qui va... C'est le mieux que tu puisses faire. Je crois la raison pourquoi souvent les trios ou les couples ouverts ou la polygamie, ça fonctionne si peu. C'est que ça t'enlève, ça t'envoie l'idée que tu vas être comblé au maximum.
Mais on dit qu'on le sait pas, ça fonctionne si peu.
Ça fonctionne si peu parce que je pense que c'est pas toutes les couples ouverts qui en parlent encore à cause du jugement des autres.
La seule affaire que les couples ouverts parlent, c'est du fait qu'ils sont couples ouverts.
Comme quelqu'un qui est tolérant.
Oui, oui. Non, comme je suis prêt à tout entendre. Oui, je suis prêt à tout entendre, mais hey, les gens en couple ouvert sont discrets. Non.
Ben,
non,
ah, il peut y en avoir, puis on peut dire
c'est
en même temps.
Il y a des portes étendards.
C'est très rare. Tu as parlé de polygamie, mais il y a une différence. Il y a des gens qui sont polyamoureux. Tu sais, qui ont plusieurs partenaires.
Ah, quand t'es au courant, ils sont pas les mourus.
Ben, en même temps, on sait quand quelqu'un fait du crossfit ou de la moto.
Mais il faut, parce que c'est important.
Puis souvent, ils sont pas les amoureux. Mais souvent,
Thomas, si on veut donner des options aux autres, faut que quand tu adoptes un comportement qui sort du lot, il faut que t'en parles pour le légitimer puis le démocratiser.
Oui, mais toi,
t'es insupportable. C'est qui nous invite à ce show-là? Faut que j'appelle mon agent.
Je veux dire, toi, on le sait que t'es en couple. Le nom de ton podcast, c'est Couple ouvert. Mais oui. Tu devrais pas en parler que t'es en couple. Non, mais c'est comme si c'est implicite qu'on peut dire à tout le monde qu'on est en couple, mais quand une
population propagande.
C'est de la propagande, oui. Hétéronormative.
Oui,
c'est
dégueulasse.
Je suis d'accord.
Ça me dégueule.
Notre couple ouvert, c'est de la propagande hétéronormative.
C'est supportable.
Mais c'est ça, tout ça pour dire que.
Il y a des alternatives. Oui. Mais je pense que c'est important qu'il y ait quand même un équilibre puis qu'on trouve des bonnes façons ensemble, que ce soit par, OK, ben le résultat, quand ça ne tente pas, je vais combler ça par la masturbation. C'est correct? Oui, parfait, cool. Ou bien, OK, moi, je vais aller voir ailleurs. Oui, communication. Oui. C'est cliché, là, mais ça, c'est Jocelyne dans Radio Enfer qui m'a
dit ça. Il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression. Tu sais, moi, je rencontre souvent des... Là, je vais parler de femmes parce que je vois plus de femmes, mais je rencontre beaucoup de femmes qui vont dire hey, mon chum, il est vraiment patient, ou ma blonde pourrait cette année aller voir ailleurs. Tu sais, ça met une pression. A l'impression d'emblée que l'autre est insatisfait ou insatisfaite puis qu'il voudrait plus de relations sexuelles. Tu sais, il y a comme surtout au niveau de ce qu'on véhicule comme message par rapport aux hommes, c'est que les hommes voudraient tout le temps avoir des relations sexuelles. Mm-hmm. C'est beaucoup ce qu'on entend, ce qu'on véhicule, tu sais. Fait que ça aussi, je pense que des fois, on se met des attentes, on pense qu'on connaît ce que l'autre a dans sa tête.
Dis-moi si je me trompe, mais la sexualité, c'est très large.
Mm-hmm.
Et souvent, célibataire, t'as une plus grosse libido, t'en as pas de sexe. Fait que t'aimerais vraiment ça en avoir.
Mm.
Mais des fois, le goût d'une vie sexuelle, c'est aussi le goût d'une intimité.
Ben oui.
Et la vie sexuelle, le rapport sexuel, c'est l'intimité au maximum. C'est même le plus loin, je pense que tu peux aller. Quand t'es en couple, dormir avec l'autre personne, écouter la télévision avec l'autre personne, manger avec l'autre personne, prendre la main de l'autre personne, marcher avec l'autre personne.
Oui,
ça, peut-être juste vivre ça avec quelqu'un, t'as pas besoin de baiser avec ta personne parce que tu vis cette intimité-là.
C'est bien.
Hey, tu vois, j'ai un ami célibataire avec qui je discutais récemment, puis tu sais, il me disait, c'est pas tant le sexe que... Il dit, juste me faire toucher, juste avoir un contact humain, la chaleur humaine. Tu sais, il dit, Crime, il dit... Je pense que c'est parce qu'il était super noué, puis j'y offrais de le masser, puis il dit comme, aïe, aïe, je serais quasiment mal à l'aise tellement ça fait longtemps que j'ai été touchée, j'aurais l'impression que c'est quasi-sexuel, tu sais. Parce que ça fait tellement longtemps
que... C'est bien que t'as dit ça.
Oui, puis j'étais extrêmement touchée, puis oui, tu sais, c'est tellement important, le contact, la chaleur, tu peux...
Puis même, tu sais, on parle d'intimité, mais être capable aussi d'être en intimité avec soi pour pouvoir entrer en intimité avec les autres.
C'est la base.
Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec la solitude. On parle de masturbation, qui ont de la difficulté à se toucher, à explorer leur propre corps. Faut aussi être en mesure d'être capable d'être en intimité avec soi. Puis là, j'ai fait le lien avec la masturbation parce que c'est notre livre, mais tu sais, il y a plein de façons d'être en intimité avec soi.
Oui. Vous l'avez mentionné, vous êtes rencontrés dans le cadre... d'un organisme sur l'anorexie. C'est quoi l'anorexie? C'est quoi avoir des problèmes avec des troubles alimentaires? C'est quoi ça?
Bien, puis peut-être que Roxy pourra compléter, mais en fait, tu sais, il faut voir, on a souvent l'impression que les troubles alimentaires, c'est j'ai des troubles alimentaires ou non. Mais en fait, c'est plus comme un continuum. Tu sais, les troubles alimentaires, c'est un point où est-ce que tu as reçu un diagnostic, bon, c'est un trouble de santé mentale, mais on a tous, en quelque part, une relation qui est plus ou moins saine avec la nourriture à différents degrés. Mmh. Tu sais, on connaît tous des gens, ou peut-être même qu'on le vit, qui ont fait des régimes à répétition, qui skippent des repas. Mais, puis, entre autres, l'anorexie, c'est une des formes de troubles alimentaires, mais il y en a plusieurs autres. Tu sais, l'anorexie, c'est, bon, entre autres, de manger très peu, d'avoir certaines formes de restrictions. Tu sais, je pourrais en parler plus longuement, mais dans le fond, les troubles alimentaires, c'est vraiment une relation qui est complexe avec la nourriture. Puis c'est comme la pointe de l'iceberg, dans le sens que c'est ce qu'on voit à le comportement face à la nourriture, mais c'est signe qu'il y a une souffrance en arrière.
Ouais, ça
c'est
cache souvent,
oui, une façon de gérer des émotions qui sont plus difficiles. Pour certaines personnes, c'est une façon de
l'expression « manger ses émotions », c'est
oui,
il y a un fond de vérité.
Ben oui.
Tout à fait. C'est vraiment intimement lié, les émotions.
Ouais, l'hyperphagie, la boulimie est beaucoup liée à ça. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai longtemps été dans le déni de mon trouble alimentaire parce que, encore là, manque d'informations, dans ma tête, il n'y avait que l'anorexie. Puis pour moi, l'anorexie, c'était se faire vomir. C'est ce que j'avais vu dans les films. Puis je ne me faisais pas vomir. Moi, c'était pas la façon dont je me purgeais. Moi, je me surentraînais. Puis je m'affamais. En tout cas, bon, bref, j'avais des cycles d'anorexie puis de boulimie. Puis quand j'ai lu la boulimie, là, je me suis vraiment retrouvée. Puis j'ai fait comme, OK, quand j'ai appris, puis j'ai admis ça. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est toujours latent. Puis c'est cette maladie mentale-là aussi causé une dysmorphie de l'image corporelle chez moi. Ça veut dire que, admettons, la façon dont toi, tu me vois, qui devrait être comme la réalité, parce que toi, t'es objectif par rapport à mon corps, puis la façon dont moi, je me vois, c'est totalement différent, là, tu sais. Si je me traçais sur un truc, puis toi, tu me traçais, là, ça serait très changeant, là. Pour moi, c'est latent. Ça veut dire que je vais toujours avoir une relation conflictuelle avec mon corps puis la nourriture, mais parfois, c'est en dormance, puis parfois, quand je suis fatiguée ou stressée ou... dans une phase dépressive, tout ça, là, ça, la bibitte reprend de la force puis reprend le dessus dans mes habitudes, mettons.
Ça ressemble beaucoup à ce que tu décris, ça ressemble beaucoup, mettons, à la toxicomanie et à l'alcoolisme.
Oui, exactement. Mais tu sais, moi dans la vie, je suis quelqu'un d'excessif. Je suis une personne qui ne boit pas dans la vie parce que si j'en bois une, j'en bois plusieurs.
T'as une bière, par contre.
Oui, je le sais. Je jure que ça arrive pas, mais... ouais, tu sais, j'ai une personnalité excessive dans la vie. Fait que je dois me méfier de ces tendances-là, que ce soit justement avec la drogue, avec l'alcool. Plus on se connaît, mieux c'est. Hein, plus on apprend à se gérer puis à détourner nos mauvaises tangentes. Mais c'est ça, un trouble alimentaire, c'est vicieux aussi parce que ça paraît pas toujours. C'est pas vrai que ça apparaît. Moi, j'ai toujours été un poids dit santé.
C'est votre force. C'est la force des gens, des anorexiques qui se veulent cacher avec les vêtements, avec l'attitude.
Puis même des fois, c'est valorisé. T'sais, admettons, si on regarde une personne qui perdrait beaucoup de poids, pourrait se faire féliciter, t'sais, se faire renforcer. Donc, ça peut même être valorisé quand
c'est
on le sait.
C'est pour ça qu'il y a une campagne, justement, le poids sans commentaire. C'est important. Autant si la personne en prend qu'en perd, tu connais pas sa situation, tu sais pas qu'est-ce qui a causé ça, t'en parles pas, puis tu sais quoi? La personne te doit aucune explication sur sa perte ou sa prise de poids. Ça concerne personne.
Je connais ta actrice, je connais personne dans le milieu des... Je connais aucun acteur ou actrice.
Oui.
J'en connais, c'est pas vrai. Ça doit être extrêmement difficile pour un acteur et une actrice d'avoir une relation saine avec son corps parce que vous êtes jugé sur votre corps et en plus, vous êtes jugé par une caméra.
Oui.
Fait que vous devez plaire à une agence de casting, à des réalisateurs et à des lentilles de caméra qui ne pardonnent pas.
Non.
Ah, mon Comment Dieu. C'est le métier d'acteur et le lien avec son rapport au trouble alimentaire et à l'anorexie? Comment c'est?
C'est une thérapie, là, ma foi, ce podcast. OK, je vais être super transparente parce que, oui, absolument. Parce que je pense que peut-être ça peut aider, puis je pense que c'est important. Moi, mon trouble alimentaire, je sais exactement pourquoi je l'ai développé. Moi, je suis une enfant de la télé. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai travaillé beaucoup, ça marchait mes affaires, j'en mange de ce métier-là. Il n'y a personne dans ma famille, je suis tombée là-dessus vraiment par hasard, mais j'adorais ça, OK? J'étais super performante, super focus. Travail. J'étais la petite face qui était partout qu'on voulait, là. J'étais à saveur du mois pendant toute mon enfance. Arrive la puberté, l'adolescence, paf, plus rien, plus de contrat. J'ai 11 ans puis je suis une has-been. Puis, tu sais, j'ai maturé vraiment vite, je pense. J'ai grandi entourée d'adultes, j'ai eu un travail, j'ai eu des responsabilités très tôt. Fait que dans ma tête, je suis une has-been, puis je ne reconnais plus ma propre valeur. Parce que, ben, comme n'importe quel adulte, souvent et malheureusement, je pense, la plus grande source de valeur que je me donne, c'est celle liée à mon travail, à ma carrière. C'est là où je reçois, ouais, c'est là où je reçois la reconnaissance. Puis, je suis un peu devenue une bébite de foire dans le sens que j'ai été dressée pour plaire. Moi, je suis un caméléon. Je suis capable de... je pense avoir une très bonne intelligence émotionnelle, ce qui fait que je lis très vite les gens, et ça depuis très petite. Je comprends très vite ce qu'ils attendent de moi, ce qu'ils veulent de moi, puis je leur offre. Le danger avec ça, c'est que c'est super vicieux parce qu'à un moment donné, tu te perds. Moi, quand je suis tout seul avec moi, là, puis que j'ai plus personne à qui plaire, je suis qui? Je veux quoi? Moi, pour moi, ça s'est mis à être vraiment fucking flou.
Ce sont des questions que tu te poses à 23 ans, pas à 11.
Ouais, à 11. 10-11, OK? Crise identitaire à 11, là, je me rappelle, c'est ma fête, je pleure. Je pleure. Je vieillis. Je vais rester une enfant. Ça va bien, ma vie. Ma carrière, tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Mais puis pourtant, mes parents ont tellement tout fait pour essayer de me préserver de ça, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que mon corps se met à changer, puberté, plus de contrat. Je suis une has-been, puis j'associe ça au changement de mon corps. J'ai plus mon corps d'enfant, je ne suis plus belle, je ne suis plus mignonne, je ne suis plus vendable. Alors j'essaie de retenir mon corps d'enfant désespérément. Donc, maigrir, pas prendre de forme, alors que à mon grand âme, et pourtant... J'ai une génétique voluptueuse. T'sais, moi, toutes les femmes dans ma famille ont des très fortes poitrines. Puis t'as vu, là, je suis mini. Là, je fais 5 pieds. Puis je suis assez menue. Puis j'avais une très, très forte poitrine. Puis ça, puis que je voulais pas ça. Puis bref, j'arrête de travailler. Développe mon trouble alimentaire, clairement, pour ça. Je me remets à travailler une fois l'adolescence passée. Mais les dommages sont faits. Puis c'est rough. Puis... tu vois les autres qui jouent, puis tu compares, puis tu veux, puis... Tu sais, le truc aussi avec ce métier-là, c'est que c'est pas juste un métier, hein, c'est une passion. Ça fait doublement mal quand tu travailles pas. Puis tu sais, je t'en parle à un moment où ça fait 5 ans depuis que j'ai eu ma fille que j'ai pas travaillé, là. C'est tough comme métier. Il y en a des bons acteurs et des bonnes actrices au Québec, puis on est un petit milieu. C'est dur de faire sa place, puis je suis pas toujours prête à faire ce qu'il faudrait pour la faire.
Tu vois, ouais.
Fait trouble alimentaire est parti de là. Puis je te dirais qu'après, c'est vraiment un jeu de regagner confiance. Puis, tu sais, j'en ai parlé un petit peu. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles, après avoir fini d'allaiter ma fille, j'ai eu une réduction mammaire. Que je suis super contente pour vrai. Moi, ça m'a vraiment aidée. Puis, tu sais, c'est aussi quelque chose que j'espérais qu'il change un peu la dynamique par rapport à mon corps, par rapport à ma vision de moi, par rapport à la façon aussi dont mon casting était très sexualisé. Souvent, je jouais les petites tannantes, la fille avec qui le gars trompait, le bon gars, la pas fine, la séductrice, la menthe, la prostituée. Bon, name it. J'ai été beaucoup là-dedans, dans cette espèce de carcan-là. Puis, je voulais aussi en sortir.
Qu'on se fasse demander de jouer ça?
Ben, moi, j'ai vraiment pas très peu de pudeur. Étonnamment, là, malgré mon trouble alimentaire, puis tout ça, mon inconfort par rapport à mon corps, il est par rapport à moi, pas par rapport aux autres, parce que en général, je sens plutôt de la bienveillance, je te dirais. Fait que ça, j'ai pas trouvé ça tant confrontant, ni la nudité, ni les scènes de filles sexy. Je me suis même amusée là-dedans. J'aime ça être sexy dans la vie. Tu sais, je me considère comme une féministe pro-sexe. Dans le sens que, pour moi, pour être une féministe, t'es pas obligée de porter un col roulé puis des pantalons, là. Tu peux être sexy puis vivre ta féminité à fond la caisse puis même l'exploiter, comme on disait, sur OnlyFans, whatever. je suis totalement derrière ça.
C'était juste le fait d'être tout le temps dans
le C'était juste le fait d'être juste ça, le même type de rôle. Puis, tu sais, moi, j'aime ça jouer. Il y a comme un moment où tu veux prouver ta valeur comme actrice. Puis quand t'es tout le temps dans les mêmes trucs qui sont comme près de toi ou la girl next door cute, c'est redondant puis tu peux moins le faire. Malheureusement, j'ai pas encore eu cette
point. Puis le but, tous les acteurs vont dire, ils veulent jouer des personnages.
Transformation! C'est ça qui est le plus trippant, c'est ça.
Puis t'as été super généreuse là, de ton partage.
Ouais, t'es gentille.
Qu'est-ce que tu dis à des parents qui veulent inscrire leurs enfants dans des agences de casting, qui veulent que leurs enfants soient acteurs?
Ah, c'est dur ça. Parce que ça m'a amené tellement d'expériences malades puis de rencontres géniales. Sauf qu'en même temps, ça crée un manque quand tu l'as pas. Puis c'est aussi encore malheureusement tellement rough pour les femmes là, à cause justement de l'apparence là, puis de la pression qu'on met que... je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut souhaiter à son enfant. Tu sais, moi, c'est moi qui voulais. J'aimais ça, regardez-moi, blablabla, je parlais bien. Fait que ma mère m'a comme inscrit à ça, puis un cours de ballet de jazz. C'est ça que j'avais demandé, tu sais. Fait que je trouve que ça, s'il y a quelque chose de plus simple et naturel qu'un parent qui pousse son enfant vers ça.
Mais qu'est-ce que... Je suis dans le milieu de show business.
Ouais.
C'est pas sain.
Non.
C'est pas un milieu sain. C'est de la merde. C'est pas un milieu sain quand t'as 29 ans.
Imagine comme un enfant.
C'est ça. Je trouve ça. Moi, qui connais un peu le show business.
Hey, merci d'ouvrir là-dessus.
Je dirais,
c'est fou.
C'est une
Personne
très mauvaise.
J'ai jamais parlé de ça.
C'est une très mauvaise idée d'envoyer son enfant sur un plateau de tournage.
Ok. Déjà là, je serais très réticente pour ma fille. Mm-hmm. Un peu moins pour mon garçon. Je vois une différence.
Ouais.
Encore là, pour avoir des amis qui ont été des enfants, qui comme n'importe quel joueur de hockey qui se ramasse très jeune avec beaucoup d'argent, beaucoup de reconnaissance, whoop, la drogue, tu sais.
Beaucoup de responsabilités.
Beaucoup de responsabilités. Il y a souvent des dérapages, là, tu sais. C'est pas idéal, non.
Dans les deux, parce que c'est un autre truc pour avoir rencontré des enfants acteurs devenus adultes.
Ouais.
La plupart disent c'est très bizarre d'avoir un compte en banque plus garni que celui de ses parents.
Ah ouais.
Ça, c'est un drôle de rapport que tu as avec tes parents parce que...
Hey, moi, là, là-dessus, mes parents ont été géniaux. Là. Je viens de la classe moyenne.
Peut-être que t'étais pauvre, ça. C'est les gens qui disent ça sont pauvres.
Ben, c'est
la classe moyenne, c'est très large.
C'est les gens qui disent que la classe moyenne sont riches habituellement.
C'est
ouais, la classe moyenne!
Non, c'est vrai qu'ils se défendent.
Mais oui,
les
gens qui disent que la classe moyenne souvent sont riches. Ceux qui disent non, classe moyenne.
Ouais, ouais. Ouais, non, OK. Ouais, plus ça, mettons, là, tu sais. T'sais, mes parents sont des travailleurs, je viens de la campagne. T'sais, mes parents n'ont pas fini leur secondaire ni l'un ni l'autre. Mon père est entrepreneur qui essaie de se partir de ça. Ma mère s'est occupée de nous. Bref, oui, t'sais, c'est venu très vite que mes revenus étaient considérables parce que je travaillais comme un adulte. T'sais.
C'est très payant, la télévision.
C'est très payant. Puis ouais, quand tu es en demande puis que tu roules, là, ça peut être vraiment payant. Puis moi, mes parents étaient géniaux parce que il y a mille et une situations où il aurait pu de façon légitime se prendre un salaire parce que ma mère a dû lâcher son travail pour me véhiculer, pour passer du temps, pour attendre après moi, pour m'apprendre mes textes. Je n'avais même pas lire.
C'est vrai.
Me coacher, tout ça. Et ils n'ont jamais rien pris et ils n'avaient pas de connaissances.
C'est l'anti-Britney Spears.
L'anti-Britney Spears. Il y avait pas non plus de connaissances tant économiques là, pour les placements, tout ça. Ils sont allés chercher de l'aide, placer mes sous. Ils étaient super stricts que je touche à rien avant d'avoir 21 ans. Mais, man, merci, là. Merci, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, j'arrive à jongler avec des trous de 5 ans, là, sans travailler dans mon métier, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai dû faire des choix. J'étais une vraie nerd, là. J'étais vraiment calée à l'école. J'aime ça, l'école. J'aime ça apprendre. J'ai de la facilité. Puis, j'étais arrivée à l'université. Puis, à un moment donné, j'ai eu un rôle. Puis, j'ai dû faire un choix. Puis, j'ai dû lâcher ma session, tu sais. Puis, au grand détriment de mes parents, tu vois, ils refusaient des rôles quand j'étais jeune. Puis, je me chicanais avec eux parce qu'ils voulaient que je continue à aller à l'école normale puis avoir une vie normale, là, pas avoir un professeur sur les tournages comme d'autres amis. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis quand même vraiment contente de ça, là. Ça a gardé quand même une forme de normalité, là. Parce que sinon, là, j'étais vraiment une bébite sur une planète d'adulte.
C'est un truc, tu sais, être un artiste, c'est communiquer à des spectateurs une réalité humaine, ouais. de la condition humaine. Je pense que ce qui joue en défaveur des enfants acteurs, c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfance. Alors, quand on leur demande de jouer une vraie émotion, ils n'ont jamais vécu. Le meilleur exemple, que tu sais, souvent, un truc que j'aime beaucoup, une artiste que j'aime beaucoup écouter, ironiquement, c'est Céline Dion. Ça me fait rire parce que quand on parle d'amour, on dirait qu'elle n'a jamais vécu.
Oh, parce qu'elle est dans une autre dimension.
C'est ça! Mais c'est une fille, c'est une fan. La vie ouais. de Céline, il y a juste Céline qui l'a vécu.
Oui.
Puis je ouais, me dis que pour les enfants acteurs, c'est la même chose.
T'as pas de référent.
T'as pas de référence?
Oui.
Comme tu as de la difficulté à vraiment exprimer c'est quoi travailler deux jobs pour payer ton loyer. T'as jamais eu à travailler deux jobs pour payer
ça,
ton loyer.
Ça, moi, je l'ai fait. Mes parents m'ont obligé.
Okay.
Travailler au salaire minimum. Je travaillais dans une usine puis dans une serre à porter des poches de caca de crevettes pour enrichir ton jardin, ton potager. Parce que mes parents voulaient que j'aie un sens de la valeur de l'argent. Parce que sinon, tu le perds complètement, là. Complètement, là. Tu peux.
Dans le livre Sport et divertissement de Jean-Philippe Guérard.
Oh oui, Jean-Philippe Guérard.
Ouais. Il en parle de. C'est écrit la première personne puis c'est une enfant actrice puis elle dépense son argent, elle s'en fout.
Mais c'est parce que t'as. Hey, c'est parce que
elle dit elle-même, dans le livre, là, elle ouais. dit elle-même, Jean-Philippe, ça me fait rire. Wow, je rentre, je fais une voix pendant une demi-heure, puis je fais 20 000 piastres, c'est donc bien drôle.
C'est ça. Pas 20 000, là, mais ouais.
Beaucoup d'argent, c'est-à-dire beaucoup d'argent pour très peu de temps.
Ouais, c'est ça. De l'argent qui n'a pas de bon sens, tu sais. Ouais, ça, moi, mes parents étaient là en sacrifice. J'ai été très chanceuse parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Vraiment pas tout le monde, mais ça fuck pareil. Mais j'apprends ça à personne que je suis un peu fuckée. Là. Je pense pas que c'est une nouvelle
parce que
qu'ils me connaissent. Là.
Ce qui est comique, c'est que c'est drôle que tu en parles parce que l'idée qu'on se fait des enfants stars, c'est ça rend fucké parce que la caricature absolue, c'est Mick Coughlin, lui qui joue Richie Rich et qui a joué dans.
Drew Barrymore. Drew Barrymore.
J'ai raté l'avion.
Voilà. Oui. Que...
Le gars, il ressemble.
Voilà que c'est pas ça donne pas des enfants forts.
Ben c'est ça. Puis tu sais là c'est à une autre échelle parce que le monstre de fame
hollywoodien
est fois 1000
international, tu peux même.
Et moi je voudrais même pas je sais pas comment ils font, tu sais juste
regarder
si
l'équilibre.
Ah mon dieu. Tu sais juste si même pour un adulte là d'avoir cette tu sais moi je suis quand même contente de pas être Véronique Cloutier dans la vie là. Puis d'être une no-name quand je m'en vais m'acheter ma crème pour hémorroïdes. tu sais, il y a quand même un. Puis le P, là, maudit que j'aime ça quand le monde vient de me voir, puis font comme hey, t'as été tellement touchante, ou hey, tu m'as fait du bien, ou hey, j'aime ça, tu m'as fait rire, ou hey, que je t'ai haï dans telle affaire. Le monde est cool là-dessus. Mais le monde est cool là-dessus au Québec parce qu'ils sont pas groupies. Ils sont juste contents de te voir comme la blonde du neveu qui voit une fois de temps en temps à Noël. La relation est pas la même. Aux États-Unis, là, le monde sont hystériques en te voyant. C'est sûr que ta perception de toi-même et du monde devient fuckée encore plus.
Non, Michel Courtois, j'ai expliqué en France, c'est très bizarre que les gens crient quand ils le voient. Comme je suis juste un gars qui fait de l'humour, vous n'êtes pas obligé de crier, là, ce qui n'arrivait pas au Québec. Là.
Ouais, c'est ça. Il y a un gap selon la culture et la société là, où tu te promènes. Là, ouais, en France, tu vois, moi, je suis allée faire un truc pour. C'était le centième de la victoire de Vimy. Écoute, qu'on a les Canadiens sont venus intervenir durant la Deuxième Guerre mondiale pour combattre les Allemands sur ce front-là. Puis je suis allée faire une commémoration là-bas, puis il y avait Béatrice, il y avait Cœur de pirate qui était là aussi. Oh, là-bas, là! Béatrice, c'est fou, là! Puis fallait vraiment y être pour réaliser que c'est une autre game. Oh, puis je trouve ça cool, puis je suis contente que comme société, on glorifie pas tant notre monde. On reste quand même un peu critique puis friendly, relax. Je trouve ça vraiment génial puis respectueux. Vraiment cool. Ouais.
Ouais, pour entraîner beaucoup de temps avec Mike Ward, le monde fait « Hey Mike, comment ça va? » Ah oh ben, ok, cool.
That's
c'est
it.
Tout.
C'est ça.
C'est pas bizarre.
Non, puis y a pas d'hystérie ou de
C'est très amical.
Oui, très amical.
Un peu comme moi, je le connais, lui, mais oui, je l'ai rencontré.
Exact. C'est très sain, je trouve. Le monde
c'est arrivé hier, Steph puis moi, on était dans un show puis il fait « Hey, comment ça va? » Allô, on se connaît? Ben, tu fais un podcast? Ouais, mais oui, mais moi, je sais pas des qui. Faut quand même que tu te présentes, là. Tu peux pas juste me dire comment je vais, comme si t'es un vieux cousin.
Ils ont l'impression de vous connaître, comme si t'étais des amis.
Mais tu sais, moi, je suis pas beaucoup connue, là. Vraiment pas tant, là.
Non, moi non plus.
Le monde est souvent juste comme. T'es-tu ensemble en maternelle depuis moi? Puis je suis comme. Parce que non, je viens de Saint-Denis sur Richelieu.
Je veux dire, là. Quand je veux pas parler à quelqu'un, je dis que je suis Louis T.
Non.
Ça passe.
Aïe, ah, oui. Oh, c'est fucking
ce qui est cool, c'est vu
que est-ce que Louis le sait?
Non. Ce qui est cool, je choisis Louis T. Un, j'y ressemble. Ouais. Et deux, il parle beaucoup qui est autiste.
Ouais.
Et qui a la difficulté à interagir, à communiquer.
Ouais.
Ouais. Les gens, ils font, ah, oh, il faut laisser tranquille.
Oh, c'est... oh non! C'est la bulle! Oui. Hey, pauvre Louis.
Oh, merci Louis. Merci Louis. Merci de me ressembler et merci de parler de ta condition. Ça me permet d'être, d'avoir la paix quand je veux avoir la paix.
C'est parfait. Moi, c'est Marie-Lou.
Et souvent, si tu me reconnais puis je dis que je suis Louis T, puis tu sais que c'est moi, ça veut dire que tu as une drôle de vibe. Fait que travaille là-dessus, monsieur.
Ah.
Je dis monsieur parce que c'est souvent les messieurs. Bon, ça va être tout. La masturbation, c'est extraordinaire. J'espère que des gens se sont masturbés en nous écoutant.
Tu penses?
Convaincu.
Why not?
Convaincu.
C'est très sain, on ne juge pas.
Non, pas, on le sait pas. On le sait pas. C'est ce qui est génial des podcasts. On sait jamais ce que les gens font.
Mais on espère que ça va donner des outils aux gens pour explorer aussi.
Oui. Yeah. Oui. Offrez-vous-le à Noël. Là.
Offrez-vous-le à Noël.
Passez la bonne parole.
Passez-vous ce que vous voulez.
Passez-vous ce que vous voulez.
C'est un plaisir, les filles. Si on veut vous suivre, on fait quoi?
Instagram. Écoute, je pense que j'étais à 5000 followers.
Hey,
sérieux, vous allez voir mes enfants, les poules. Je suis pas de jet set, j'ai pas de lifestyle. Si vous voulez voir une fille semi-no-name, je suis là.
Imagine si elle est pas jet set, moi.
Arrête, t'es full cool.
Mais t'as-tu des organismes que tu veux...
Ouais.
Oui, ben tu sais, je suis sur Instagram aussi. Mais sinon, il y a aussi, tantôt, on a parlé d'Aneb, qui est justement sur Instagram, sur Facebook. Puis sinon... En lien avec ce que les gens peuvent suivre, il y a The Vulva Gallery sur Instagram qui présente vraiment plein d'images, des illustrations, tu sais, super friendly, colorées, de différents types de vulves. C'est vraiment des images très inclusives. Fait qu'en tout cas, ça peut, des fois, d'avoir des représentations diversifiées, puis pouvoir se reconnaître dans certaines images, ça peut faire du bien. Fait que moi, c'est un site que je
recommanderais. Pas juste la vulvette super épilée de la première page.
Plein de vulves.
Plein de vulves.
Plein de vulves.
C'est beau, des vulves. Hein?
C'est extraordinaire, les vulves.
C'est extraordinaire.
On adore les vulves.
Oui.
On est pour la vulve.
On est pour la vulve.
Sur ce, vive la masturbation, vive les vulves, vive vous.
Merci Thomas!